Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Pays-Bas entrent au capital de la compagnie aérienne Air France-KLM. Une participation surprise, Paris dit ne pas avoir été prévenu. Une bataille d'influence que nous détaillerons dans un instant.
Et puis nous analyserons aussi le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui se tient en ce moment à Hanoï au Vietnam. Les décisions prises entre l'Américain et le Nord-Coréen pourraient être minces.
L'entreprise française Decathlon renonce à commercialiser son hijab de sport après une journée de controverse en France. Une mauvaise nouvelle pour la démocratie, dit un sociologue.
En ces temps de pollution, sous la chaleur de février, une centaine de signataires de la pétition L'Affaire du siècle seront reçus ce soir par le ministre François de Rugy. Ils attendent du concret pour le climat et non une belle opération de communication, vous les entendrez.
Dans un quart d'heure, Stéphane Robert nous rejoindra pour le billet politique. Entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, le Sénat joue sa peau. Vous le comprendrez après ce journal. Les relations étaient déjà tendues entre Amsterdam et Paris à propos du dossier Air France-KLM. Et voilà que les Pays-Bas prennent une participation au capital de la compagnie aérienne sans prévenir le gouvernement français ni le conseil d'administration. Ils ont acquis 12,68%. Participation surprise, regrette le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Il estime qu'Air France-KLM doit être géré sans interférence étatique. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Clara.
Que cherche à faire l'État néerlandais ?
Cela apparaît quand même plus comme une position défensive plus qu'une réelle offensive. Le gouvernement néerlandais craint une trop grande influence de la France et entend ainsi défendre les intérêts de KLM. Cette acquisition surprise intervient après de fortes tensions entre le patron de KLM, Peter Selbers, et le nouveau directeur général d'Air France KLM, Benjamin Smith. Benjamin Smith qui vient d'imposer sa présence au conseil de surveillance de KLM et qui ne souhaitait pas reconduire dans ses fonctions Peter Selbers en avril prochain. Sous la menace d'une grève des salariés et la pression des dirigeants de la branche néerlandaise. Finalement, mardi dernier, il avait abandonné cette idée. Mais chat est chaud et craint l'eau froide, comme on dit. Et pour prévenir toute ingérence de la France dans le futur développement du groupe, le gouvernement néerlandais a préféré intervenir et prendre donc une participation dans le groupe à hauteur de celle de l'État français.
Et une question se pose déjà ce matin, Annabelle. Les Pays-Bas peuvent-ils être majoritaires chez Air France KLM ?
Non, cette prise de participation néerlandaise ne devrait pas changer radicalement le rapport de force au sein du groupe. La France bénéficie d'un droit de vote double sur une partie des actions, ce qui lui confère aujourd'hui plus de 23% des droits de vote. Les salariés d'Air France détiennent également 4% du capital, donc pour le moment, pas vraiment de risque de ce côté-là. Il est clair qu'il s'agit plutôt pour le gouvernement néerlandais de peser dans les décisions futures du groupe aérien. L'enjeu est de taille pour les Pays-Bas. L'avenir de KLM est d'autant plus important pour les Néerlandais qu'il est directement lié à celui de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, l'une des plus grandes plateformes aériennes européennes. C'est ainsi clé pour le développement économique du pays.
Merci beaucoup Annabelle Grelier pour ces précisions ce matin. Qui prendra le dessus pour arriver à un accord ? Aux États-Unis, les tractations continuent pour empêcher ou non la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Donald Trump veut passer outre le Congrès et décréter l'urgence nationale. Pour le contrer, les démocrates ont adopté hier une motion visant à annuler cette urgence nationale. Une étape qu'ils ont franchie assez facilement hier soir, Loïc Loury.
245 voix pour, 182 contre, le vote de cette résolution à la Chambre basse n'a été qu'une formalité. Mais surtout, 13 républicains ont voté avec les démocrates, de quoi donner des sueurs froides à Donald Trump avant l'arrivée du texte au Sénat. Le camp du président y dispose en effet d'une courte majorité, 53 sénateurs contre 47 pour le parti adverse. Et d'ores et déjà, 3 républicains ont affirmé vouloir voter contre le milliardaire et son mur. S'ils se tiennent à leur position, il ne manquera plus qu'une petite voix pour que le texte soit adopté. Mitch McConnell, leur chef, reconnaît d'ailleurs que la situation est critique. Donald Trump, lui, met en garde les rebelles potentiels et les appelle à ne pas tomber dans le piège des démocrates. Avec cette urgence nationale, le président contourne le Congrès pour financer sa barrière anti-immigration à hauteur de 8 milliards de dollars. Ce n'est pas la première fois que la procédure est employée, mais les élus des deux chambres n'acceptent pas de se voir ainsi évincés. De surcroît, estiment les démocrates, pour une urgence qui n'en est pas une. En cas d'adoption du texte au Sénat, restera toutefois une étape à franchir, celle du bureau ovale, et le président a déjà affirmé qu'il y mettrait son veto. Ce serait le tout premier de sa présidence.
Donald Trump qui pour le moment est occupé à ménager son homologue nord-coréen, à le choyer même. Sur le réseau social Twitter, le président américain a prédit à son ami Kim Jong-un un avenir génial s'il s'engage sur la voie de la dénucléarisation. Entre compliments et mise en garde, à quelques heures de leur rencontre, la deuxième du genre en 8 mois, c'est au Vietnam que se trouvent en ce moment les deux dirigeants, à Hanoï. Et l'idée est de concrétiser les mesures décidées en juin dernier à Singapour sur la pacification et la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour le moment, les actes concrets sont peu visibles, analyse Antoine Bondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des deux Corées.
La déclaration de Singapour avait 4 points précis. Le premier, c'était les nouvelles relations politiques. Le deuxième, l'établissement d'un régime de paix. La troisième, la dénucléarisation complète de la péninsule. Et puis le quatrième, le rapatriement des soldats décédés pendant la guerre de Corée. Malheureusement, on a surtout avancé sur le quatrième point, et seulement le quatrième point. Par rapport justement aux différents points qui étaient évoqués à Singapour, on pourrait attendre l'ouverture de bureaux de liaison qui permettraient d'institutionnaliser le dialogue et d'avoir une présence américaine à Pyongyang, notamment pour préparer les négociations futures, puisqu'on n'est qu'au début. Le deuxième point, ça pourrait être la déclaration de la fin de la guerre, non pas la signature d'un traité, mais une déclaration d'intention sur le plan politique. Et puis troisième point, extrêmement important sur la question de la dénucléarisation. On peut espérer que la Corée du Nord accepte le retour des inspecteurs internationaux, puisqu'il faut bien comprendre que pour l'instant, on a eu un gel des essais, mais en aucun cas un gel du programme nucléaire et balistique nord-coréen.
Le chercheur Antoine Bondaz au téléphone de Guillaume Fariol. Plus au sud de l'Asie, deux puissances nucléaires s'affrontent en ce moment, l'Inde et le Pakistan. La première accusant le deuxième d'abriter des groupes terroristes et d'avoir permis un attentat dans le Cachemire il y a 2 semaines. Après une réplique indienne hier, une frappe préventive, ce matin des avions pakistanais ont brièvement volé dans l'espace aérien indien de la région disputée du Cachemire. Ces avions auraient été repoussés et dans le même temps, toujours au Cachemire, le Pakistan dit ce matin avoir abattu 2 avions indiens. Le pays le plus peuplé d'Afrique ne change pas de président. Muhammadu Buhari a été largement réélu président du Nigeria. Les résultats officiels ont été publiés hier soir. Le président promet d'intensifier ses efforts dans la sécurité, la restructuration de l'économie et le combat contre la corruption au Nigeria. Et puis en bref encore, notons cette mobilisation dans le calme. En Algérie hier, la jeunesse a manifesté contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika, affaibli depuis un AVC. Pour la première fois, les médias d'État, poussés par certains de leurs journalistes, ont couvert hier ces manifestations.
8h07 sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le hijab de sport ne sera pas mis en rayon chez Decathlon.
La marque française recule face à la polémique qui aura duré moins de 2 jours. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'était notamment positionnée contre la commercialisation d'un tel produit, un voile destiné aux femmes qui veulent courir avec ce voile. Après le phénomène de mode, le burkini, voici une nouvelle preuve de la crispation de la société française sur ces questions esthétiques de religion. C'est ce que nous explique le sociologue et philosophe Raphaël Laugier.
C'est véritablement un échec du modèle d'intégration par la participation. Parce qu'en réalité, cet hijab running, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la modernité, plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islam, le fait de faire du sport pour une femme, ça serait interdit dans une interprétation littérale. Ça veut dire que ceux qui veulent pratiquer le sport en mettant un vêtement spécial, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils s'arrangent avec la religion, ils ouvrent le dogme, ils s'accommodent, ce qu'au Canada, on appelle les accommodements raisonnables. Alors, on parle tout le temps de modernisation, il faudrait que l'islam se réforme, se modernise. Et là, c'est une modernisation vraiment par les usages. Et d'ailleurs, la preuve de tout ça, c'est que plus on est fondamentaliste, plus on est contre. Donc, les polémiques que cela fait dans la société française en disant c'est pas conforme à la laïcité, etc., ce qui est faux, la laïcité c'est la liberté de faire ce qu'on veut lorsqu'on ne s'impose pas aux autres, et ces polémiques renforcent les fondamentalistes en affaiblissant cette espèce de modernisation de l'islam par les usages d'ouverture, d'aggiornamento.
Le sociologue Raphaël Laugier, auteur notamment de La guerre de civilisation n'aura pas lieu. Raphaël Laugier répondait à Cécile de Kervas-Doué. Alexandre Benalla et Vincent Crass sont sortis de prison hier soir sur décision de la Cour d'appel de Paris. Les deux hommes auront passé une semaine derrière les barreaux pour ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire. Il s'agit toujours du dossier des violences du 1er mai l'année dernière. Tout est à refaire pour les 281 salariés de la scierie d'Ascoval dans le nord à Saint-Saulve. Hier, le dossier du repreneur potentiel Altifort a été définitivement écarté faute de financement. Une nouvelle audience est prévue aujourd'hui au tribunal de Strasbourg. Un délai pourrait être accordé à l'entreprise en redressement judiciaire. Emmanuel Macron demande aux gilets jaunes pacifiques de ne plus participer aux manifestations qui risquent de dégénérer. Ils seraient alors complices du pire. Le chef de l'État l'a dit hier en plein débat avec les élus du Grand Est à l'Élysée. Une petite phrase qui marque un tournant dans le discours du président Rosalie Lafarge.
En 2 mois et demi, le ton a bien changé. Mi-décembre, le président prend la parole pour tenter de calmer la colère. Et voilà ce qu'il dit de cette colère.
Je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance.
Le président met d'un côté la colère juste et légitime, de l'autre la violence. D'un côté les gilets jaunes sincères et pacifiques, de l'autre les casseurs. Aujourd'hui le discours est différent. Emmanuel Macron reprend les mots plus fermes de son ministre de l'Intérieur.
Et il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout. Mais soyez partout où vous êtes aussi clair que cela. Et moi je déplore qu'il n'y ait pas toujours eu cette clarté. Je crois qu'aujourd'hui, la place doit être au débat, la place est à la réponse démocratique. Partout où elle est installée, elle sera ensuite dans les urnes pour les échéances à venir, pour celles et ceux qui veulent s'organiser. Mais on ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute.
Même s'il reconnaît qu'on ne peut pas raisonnablement interdire les rassemblements, le président semble en appeler à la fin des manifestations. Mais après cette sortie présidentielle, les appels fleurissent déjà sur les réseaux sociaux pour un 16e samedi de mobilisation avec le plus possible de complices du pire dans la rue.
Des appels à la mobilisation et des critiques des élus de l'opposition, notamment au sein du Parti Les Républicains. On accuse Emmanuel Macron de chercher la provocation. Chez la France Insoumise, on y voit un discours surréaliste qui risque d'envenimer les choses. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Là, c'est carrément une intimidation et une remise en question du droit fondamental de manifester. Laisser entendre à des gens, parce que c'est à eux qu'ils parlent, que s'ils manifestent et qu'il y a des événements violents aux manifestations, ils sont responsables du pire, c'est quand même une menace qui n'est pas entendable en démocratie. Ce que fait le chef de l'État, c'est qu'il ne cesse en réalité de jouer l'escalade par les mots. Et dans les actes, c'est un très mauvais message envoyé aux forces de l'ordre. Parce qu'en réalité, ça légitime tout. Ça légitime à certains moments des bavures. Ça légitime le fait qu'on utilise effectivement des armes comme les LBD, les grenades de désencerclement. Ça légitime des milliers d'arrestations préventives. Et donc en réalité, ça légitime le fait qu'on n'est plus aujourd'hui tout à fait dans une démocratie dans ce pays. Voilà la réalité. Le chef de l'État joue la tension, moi je le crois. Il joue la politique du pire et c'est ça qui est inquiétant.
Éric Coquerel qui évoquait l'usage du LBD, le lanceur de balles de défense, hier. Le Conseil de l'Europe a appelé la France à suspendre cet usage dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. L'invitation avait été lancée il y a 15 jours. La réunion se tiendra ce soir. Une centaine de signataires de la pétition L'Affaire du siècle seront reçus par le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Ils ont été plus de 2 100 000 à signer le texte en moins d'un mois, demandant un recours en justice contre l'État français pour inaction climatique. Certains de ces signataires seront donc reçus. Et ils se sont organisés en amont pour préparer le rendez-vous, Véronique Rebérotte.
Ils se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Une trentaine d'invités de François de Rugy sur 100 et ils ont bien préparé en amont la rencontre de ce soir. Bien décidés à ne pas se laisser berner, disent-ils, par les manœuvres d'un ministre bien en peine de cacher son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le ton est donné. Chercheur sur le corail à l'université Paris Diderot, Paul Valk, 26 ans, est convié ce soir au ministère. Il aurait lui du mal à entendre que cette inaction est la faute des citoyens.
Nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas les connaissances techniques pour travailler sur un projet interdisciplinaire d'une telle complexité que le réchauffement climatique à l'échelle de la société mondiale. Par contre, il y a plein d'experts qui ont des solutions et que nous sommes prêts à écouter ces experts et que le gouvernement, ça serait bien qu'il le soit aussi.
Des citoyens plus prompts à manifester, critiquer sans s'impliquer, le ministre de l'écologie n'est pas loin de le penser. François de Rugy croisé hier dans les allées du Salon de l'agriculture.
C'est évident que l'État doit être capable d'entraîner les entreprises, mais que rien ne se fera sans une participation massive des citoyens.
Vous allez leur dire quoi, ces citoyens?
C'est ce que je leur dirai. Je chercherai avec eux des solutions. Si les citoyens ont des solutions nouvelles à proposer pour aller plus vite, pour que ce soit plus partagé par un plus grand nombre de personnes, évidemment, c'est tout l'intérêt du grand débat actuel, qui d'ailleurs devra se poursuivre par la suite.
Le recours en justice contre l'État pour inaction climatique sera bien déposé le 14 mars prochain par les ONG à l'origine de la pétition « L'affaire du siècle ».
Une pétition portée notamment par notre invitée des matins, Juliette Binoche, que nous
absolument,
retrouvons
elle est là, dans en moins compagnie de la minutes. Romancière Camille Laurence. C'est le cadeau du mercredi.
Le cadeau du mercredi, alors je vais... Ne pas vous faire un cadeau ce matin en vous parlant de la météo, non. Miroir de ce réchauffement climatique qui fait écho à cette pétition ce mercredi 27 février. S'annonce encore ensoleillé et plutôt chaud. Des températures qui oscillent entre 7 et 11 degrés ce matin au nord de la Loire. 9 à 16 plus au sud, jusqu'à 24 degrés cet après-midi à Bordeaux. Le pic de pollution en particules fines ces derniers jours a par ailleurs poussé les autorités à interdire de circulation les véhicules les plus polluants à Paris et dans sa proche banlieue, à Lille et sa métropole également.
Et oui, le double des normales saisonnières, effectivement, ça n'est pas très drôle.